12h52, la suite de La France bouge avec Raphaël Duchemin et à présent Elisabeth Assayag, étudiante. Tendez bien l'oreille, la solution du jour pourrait bien vous intéresser.
Réinventer le petit boulot étudiant, c'est ce que fait une start-up marseillaise, Elisabeth, ça s'appelle Top Graduate.
Et oui, est-ce que vous vous souvenez de cette petite affichette qu'on pouvait trouver dans un coin de la boulangerie pour trouver un petit boulot? Bon, et bien avec cette plateforme, avec Top Graduate, on vous permet de, si vous êtes étudiant, de connecter donc les étudiants issus de toutes les écoles, de toutes les universités avec des entreprises pour leur donner des missions, mais des missions d'un certain niveau, des missions qui correspondent à leur niveau ou à ce qu'ils ont peut-être envie de faire. L'objectif, c'est qu'ils aient plusieurs expériences professionnelles parce que c'est souvent ce qui manque à l'issue des études. C'est qu'on a fait de très belles études, mais il manque un petit peu d'expérience, de diversité. L'étudiant s'inscrit sur le site, il a droit à un entretien pour que l'on puisse identifier ses motivations, ses compétences. Et de l'autre côté, les entreprises partagent leurs besoins en se connectant directement sur la plateforme, sur Top Graduate. Bonjour, Raphaël Boily.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de nous recevoir aujourd'hui.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Top Graduate. Alors déjà, l'idée est née comment ?
Alors avec Christopher, mon associé, notre envie c'était de répondre à une problématique que rencontrent aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les étudiants lorsqu'ils finissent leur cursus. Ils arrivent dans un monde professionnel en fait lorsqu'ils recherchent leur premier CDI avec un manque d'expérience professionnelle. Parce que, enfin, aujourd'hui, les solutions qui existent, ça va être le stage, l'alternance. Mmh. Mais une fois qu'on a consommé ces solutions-là et qu'on veut quand même enrichir son CV, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et à côté de ça, il y a aussi les étudiants qui vont étudier, par exemple, à l'autre bout de la France ou même à l'étranger et qui ont besoin, par exemple, de faire un revenu en parallèle de leurs études. Et du coup, les petits jobs, aujourd'hui, ça va répondre à cette problématique-là, mais pas forcément sur le CV, sur des domaines en lien avec leurs compétences.
Donc, il y a en lien avec les compétences et aussi pour un complément de revenu.
Exactement. Donc, c'est des missions freelance que les étudiants vont pouvoir faire, qui vont s'inscrire autour de quatre grandes thématiques. Donc, soit ce qu'on appelle en sales, donc tout ce qui va toucher aux thématiques commerciales, en marketing, en technologie ou encore de tout ce qui va être fonction support. Et l'idée, c'est de permettre aux étudiants de gagner en expérience professionnelle, donc d'enrichir leur CV, de travailler de manière flexible et autonome sans tomber dans la précarité et du coup, de générer un revenu en parallèle de leurs études.
Alors, quand vous dites flexible et autonome, cela sous-entend que l'étudiant doit monter une espèce de statut d'auto-entrepreneur ?
Exactement. En fait, aujourd'hui, ce statut d'auto-entrepreneur, c'est un requis d'un point de vue juridique pour que l'étudiant soit en mesure de se présenter à l'entreprise, non pas comme un étudiant, avec, entre guillemets, une casquette de consultant junior, où il va pouvoir, du coup, facturer ses services à l'entreprise. Il est lui-même, en fait, libre de facturer le prix qu'il juge le plus adéquat en fonction de la demande de l'entreprise. Et surtout, en fait, il va pouvoir travailler de n'importe où, donc en télétravail, sur différents cas.
Et c'est très, très Laurent. Différent d'une junior entreprise, ça, alors ?
Alors, ça peut y ressembler de l'extérieur, parce qu'effectivement, les junior entreprises, aujourd'hui, travaillent pour des entreprises sur des missions qu'elles leur délèguent. Nous, on a un peu choisi de s'inspirer de ce modèle-là, du modèle du consulting également, pour promouvoir la solution au plus grand nombre d'étudiants. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les écoles de commerce, les juniors d'entreprise vont s'adresser à une trentaine, une quarantaine d'étudiants qui auront la chance d'en faire partie et donc de valoriser l'expérience sur leur CV. Mais beaucoup d'étudiants n'ont soit pas été retenus ou sinon n'ont pas eu le temps de s'engager dedans. Nous, aujourd'hui, la solution, c'est vraiment de permettre à l'étudiant de travailler quand il le veut et surtout quand il le peut, en fait.
Ça veut dire que c'est beaucoup plus large, en fait. Hein. Ça peut toucher n'importe quel type d'étudiant.
Effectivement, du moment que...
Par rapport aux fameuses junior entreprises.
C'est ça. Donc aujourd'hui, la plupart des étudiants qu'on a, on approche bientôt les 1000. Ils sont issus d'universités, d'IAE, d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. En fait, pour peu qu'ils aient des compétences à valoriser et qu'ils soient motivés, ils sont les bienvenus sur la plateforme.
Il y a un coût pour l'entreprise ou pour l'étudiant auto-entrepreneur ?
Alors non, c'est totalement gratuit. Pour l'étudiant, c'est à 100%. Pour l'entreprise, il y a deux formats. Il y a un format en fait, où elle peut partager ses besoins de manière gratuite et réceptionner les propositions des étudiants. Et il y a un second format qu'on a développé, qui est l'offre entre guillemets clé en main, où du coup, elle bénéficie d'une option annexe à sa mission qui lui permet d'avoir une gestion de projet déléguée.
Ça veut dire quoi ?
En fait, on va positionner un chef de projet expérimenté sur ses missions qui va du coup piloter l'étudiant ou le groupe d'étudiants sur les trois grandes étapes, donc le cadrage de la mission, la présélection du profil pour elle, et après le suivi, le reporting en mission.
Mais du coup, comment vous payez-vous alors ?
Oui.
Alors nous, en fait, on a une rémunération qui s'axe sur une commission qu'on prélève sur les missions.
Sur l'entreprise ?
C'est sur l'étudiant, en fait. C'est-à-dire que quand l'entreprise va payer, par exemple, 1000 euros, nous, on va venir prélever une commission sur ce que va percevoir l'étudiant en contrepartie des différents services qu'il a à disposition, aussi bien l'évaluation des compétences, la cartographie du... la cartographie.
Pourquoi choisir de faire payer l'étudiant plutôt que l'entreprise?
Alors en fait, l'entreprise ne paye pas, enfin l'étudiant ne paye pas à proprement parler.
Non, mais
en fait,
c'est prélevé sur le montant de sa mission.
Exactement, des différents services, comme notamment de l'assurance et compagnie.
D'accord.
Et l'entreprise aussi va payer pour l'offre clé en main, qui est du coup facturée en annexe de la mission.
Donc quelque part, vous les mettez directement sur le marché du travail?
C'est ça, avec un accompagnement. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est que les étudiants puissent être proactifs et lorsqu'ils arrivent face à un recruteur, qu'ils puissent prouver de manière tangible les différents cas sur lesquels ils ont pu travailler.
Vous êtes en fait quand même des agents sportifs et je pense que c'est le métier des DRH de demain d'ailleurs.
Combien de clients aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on travaille avec près d'une centaine d'entreprises, avec certains grands comptes qui commencent également à s'y mettre, qui trouvent justement leur compte pour, si on peut dire ça comme ça, sur l'identification de leurs futurs collaborateurs. Ça leur permet d'avoir accès à des étudiants qui sont motivés, qu'ils ont peut-être pu tester eux-mêmes sur certains cas, avant leur proposer des CDI à l'issue de leurs études.
Ça s'appelle Top Graduate, c'est la solution aujourd'hui. Merci Noafel Bouali de nous en avoir parlé sur Europe 1.
Europe 1.
Restez avec nous, la Paris Retail Week commence demain. Alors on a eu envie de regarder de près les tendances qui se dessinent. Comment allons-nous faire nos courses? Le 2.0 est-il véritablement incontournable? On vous attend 39-21 et Twitter. A tout de suite.
Europe 1, midi 30, 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
C'est l'heure de s'intéresser au magasin de demain. Ensemble, à quoi va-t-il ressembler ce magasin dans La France bouge? Comment allons-nous faire nos courses demain? Vous allez voir que les Français ont déjà commencé à inventer des innovations qui vont changer notre quotidien. C'est votre cas, Romain Schott, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elisabeth Assayag m'accompagne.
Présente.
Et évidemment notre coach, DRH de Mazars, Laurent Chouin est avec nous. Vous êtes le président de l'Impidus et vous avez développé une plateforme qui dématérialise les tickets de caisse. Racontez-moi comment est-ce que vous est venue cette idée et pour quelles raisons?
Alors, il y a quelques années, je faisais mes courses, j'avais des tickets de caisse plein les poches.
Oui, ça sent le vécu, voilà. Effectivement.
Et à un moment donné, j'ai eu une garantie à rapporter. Je n'ai pas retrouvé le ticket alors que j'en avais plein d'autres dans les poches. À un moment donné, je me suis dit, il faut trier un petit peu tout ça, apporter un service aux consommateurs. Et on a mis progressivement, avec mon associé, en place ce service de dématérialisation de tickets de caisse.
On est en 2011.
Et on était déjà en 2011, oui, tout à fait. Il nous a fallu beaucoup d'années pour convaincre la grande distribution de nous rejoindre sur notre plateforme. Et à partir de 2017, ça a explosé. Maintenant, on a beaucoup de clients, on a une croissance qui est très forte. Et on est très content de ce qu'on fait, puisqu'on est en train de démocratiser le e-ticket de caisse.
Parce que ce n'était pas du tout votre cheval de bataille au départ. Vous étiez maître de conférence à Paris 6 en physique. Donc, vous n'étiez pas prédestiné à travailler sur le ticket de caisse. Mais vous avez cherché à créer une entreprise qui ait du sens.
Oui, absolument. Oui. En étant maître de conférence, j'avais, il me semble, des prédispositions à entreprendre sur tout un tas de sujets. Et donc, j'ai préféré choisir la voie de l'entrepreneuriat. J'étais physicien, donc c'est effectivement amusant qu'un physicien s'adonne à ce genre d'aventure, sachant qu'en plus le métier de maître de conférence est très confortable.
Elisabeth, les tickets de caisse justement, puisqu'on est en train d'en parler, il va y en avoir manifestement de moins en moins.
Mais oui, vous avez peut-être déjà remarqué que dans plus en plus d'enseignes, on vous propose au moment de payer, de régler vos achats, d'envoyer le ticket de caisse via Internet. Eh bien oui, parce que déjà l'enjeu est écologique, hein, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, il y a 12 milliards de chaque année en France de tickets de caisse dans les supermarchés, dans les enseignes. C'est-à-dire que ce sont 10 600 rouleaux par an, et je vous donne encore un petit chiffre pour vous donner une image, c'est 850 km de papier chaque année en France.
Alors, si je suis convaincue et que j'ai envie, moi aussi, de dématérialiser mon ticket de caisse, je fais comment avec votre solution?
Alors, lorsque vous passez en caisse, vous payez. Et dans la foulée du paiement, on vous propose de recevoir votre ticket de caisse par email. Mmh. Vous avez le choix de refuser. Donc, dans ce cas-là, il va tout de même s'imprimer. Vous avez le choix de vous le faire envoyer par email. Et vous avez aussi un choix hybride, email plus impression de ticket papier. C'est très simple.
Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre, puisque vous l'avez dit, ça a été un petit peu long, les premières grandes surfaces? Qu'est-ce qui posait problème? Pourquoi est-ce qu'elles étaient un petit peu réticentes?
Alors, c'est vraiment une succession de micro-aspects. En particulier, il y a ce qu'on appelle l'aspect RSE, qui a beaucoup joué pour les enseignes. Et il y a aussi un aspect qui est très important, qui est celui de pouvoir consolider sa base client. Donc, l'email, c'est un élément de la base client. L'email qui est donné par un consommateur lambda, c'est souvent poubelle@yahoo.fr, hein, parce qu'il ne veut pas être spammé. Et dans ce cas-là, on a besoin de pouvoir joindre le client, on n'a pas son email. Donc la dématérialisation est un moyen parfait pour obtenir de la part du client un email qui cette fois-ci est contactable, modulo le fait bien entendu, qu'on lui demande son consentement pour être contacté.
Laurent, notre coach.
Alors justement, parce que là il y a de la RSE mais aussi de la RGPD, comme on dit de nos jours.
Oui. La protection des données.
Finalement, toutes ces données que vous récupérez comme ça, alors je vois bien, très bien l'intérêt de fournir aux entreprises la récupération d'adresses email. Et à l'inverse, alors, qu'est-ce qui se passe? Vous écrasez les données en permanence ou vous les conservez, vous les exploitez? Qu'est-ce qui se passe derrière cette petite facture dématérialisée?
Nous, Limpidus, à ce stade, pour la plupart des enseignes clientes, nous ne conservons pas de données RGPD de type sensible. En revanche, nous leur communiquons des bases de données consolidées, effectivement, mais tout ça se passe, on va dire, à la volée, plus que sous la manière d'un stockage. Donc on a, par exemple, un client qui va dire « Cet email-là, poubelle@yahoo.fr, c'est pas le bon, laissez-moi le modifier », il va le modifier. Et cette modification, on est capable de la transmettre à l'enseigne. Elle va transiter par nos serveurs, certes, mais par contre, on n'a aucune vocation pour le moment à la stocker.
Mais il y a aussi une information sur les montants d'achat, sur donc finalement le pouvoir d'achat des gens, non ?
Oui, absolument. Donc on est dans la donnée RGPD. Nous traitons de la donnée RGPD, ça c'est un fait. En revanche, est-ce que nous la stockons ? Pour le moment, la réponse est non.
Dites-moi, vous avez développé ça, donc on a dit en 2011, vous dites jusqu'à 2017 ça a été compliqué parce que le marché n'était pas prêt, il y a eu une bascule qui s'est opérée, aujourd'hui vous sentez véritablement que ça y est, c'est parti, vous avez même un partenariat avec Auchan je crois, le Receipt to Recipe.
Oui effectivement avec Auchan Innovation, on a lancé en fait l'après e-ticket caisse, parce que le e-ticket c'est pas suffisant pour les enseignes, elles pourraient tout à fait le faire elles-mêmes, hein. Elles n'ont pas besoin de nous à la limite. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est la richesse autour du ticket de caisse. Et avec Auchan, on leur a apporté un service, donc avec Auchan Innovation dans Auchan Retail International, un service qui leur permet de pouvoir, dans l'email qui porte le ticket de caisse, ajouter des recettes qui sont personnalisées sur le contenu du panier. Donc si vous avez acheté du bœuf et des carottes et des oignons, vous aurez certainement une recette de bœuf-carottes qui vous sera illustrée dans l'étiquette caisse. Et on est sur de la donnée non RGPD.
Elisabeth, vous avez trouvé une autre entreprise qui dématérialise aussi l'étiquette caisse.
Il y en a plusieurs, notamment à Cachan, il y a une start-up qui s'appelle Diwee, D-E-E-W-E-E, qui a trouvé une solution aussi pour les dématérialiser, mais aussi pour les personnaliser. Cette entreprise a fait breveter un boîtier sans contact qui se connecte à n'importe quel système de caisse via des systèmes comme USB, Bluetooth ou Wi-Fi. Les données du ticket de caisse sont ensuite envoyées sur le cloud de l'entreprise, de Diwee, et récupérées par un téléphone ou une carte de fidélité placée sur le boîtier. Sur le e-ticket, le nouveau ticket de caisse, le consommateur retrouve sa liste d'achats, mais également des promotions personnalisées qui lui correspondent. Et évidemment, le commerçant, lui aussi, a un intérêt d'utiliser ça, puisqu'il peut enrichir sa base de données clients pour les prochaines opérations commerciales.
On reste ensemble et on continue à parler de ce fameux magasin de demain. C'est la suite de La France bouge. On s'intéresse aujourd'hui aux innovations que feront les magasins de demain, Elisabeth.
On a tous l'habitude, vous serez d'accord Céline, oui, de croiser des distributeurs, que ce soit dans les gares, les métros, les aéroports. Mais demain, le distributeur sera géant. Il sera au coin de la rue, un peu partout. Bonjour Damien Tabuteau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur adjoint de Neovendis. Et alors vous, vous commercialisez les magasins Ximity. Vous dites magasin, j'ai schématisé en disant distributeur parce que c'est à mi-chemin entre les deux. C'est un distributeur XXL, voire triple XL, qui ressemble davantage à un magasin.
C'est ça en fait. Nous, on parle plutôt de magasin parce qu'on estime qu'au-dessus de 100 références produits disponibles à la vente, on ne parle plus de distributeur, mais bien de magasin en fait.
Oui, parce que vous, à l'intérieur d'Eximity, il y a des centaines de références.
Des centaines. Ça va de 200 et puis après, on n'a pas de limite. Vraiment, ce qui va nous limiter, ça va être la taille du local commercial où on s'installe. Voilà.
Alors, Neovendis, ça a été créé en 2014. On est à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Comment vous vient l'idée de ce magasin autonome ?
En fait, nous, à la base, déjà, on était un bureau d'études avant de créer le magasin, qui datait d'un petit peu avant. Et en fait, donc, on était spécialisé, surtout, on travaillait beaucoup pour les entrepôts dans la grande distribution. Et
sur
donc,
la question du stockage, notamment.
Voilà. Et donc, on a eu l'idée de miniaturiser ce système et en fait, d'en faire un magasin.
Donc, faire l'arrière-boutique du magasin en grand pour le public.
C'est exactement ça.
Et donc, vous y prenez comment ? Comment est-ce que vous démarrez ce premier Ximity ?
Alors en fait, nous, le tout premier magasin a été installé début 2010, en fait. Donc, c'était le magasin un peu expérience. Il y en avait un à Biarritz, donc et un à Lyon, et qui nous ont permis, en fait, de mettre le concept au point. Et puis ensuite, on a lancé, en fait, l'enseigne en 2017, donc le nom Ximity, et donc le développement commercial des magasins.
Ça fonctionne comme un gros distributeur, c'est-à-dire que je me mets devant le distributeur et je peux choisir n'importe quel produit.
On est vraiment un peu sur le concept un peu de ce que vous trouvez sur les sites internet en termes de drive. C'est-à-dire que nous, tous les produits sont classés sous forme de famille de produits, sous-famille de produits. Vous venez faire créer votre
donc
panier.
Donc j'ai les pâtes, les biscuits.
C'est ça exactement. Épicerie sucrée, salée, les boissons, les produits plutôt, on va dire, hygiène, des pH, etc. Et donc ensuite, vous avez des sous-familles de produits pour vraiment trouver facilement. Il faut que ce soit assez ludique pour que les gens ne tardent pas trop. Il faut que ce soit rapide en fait. Et donc ensuite, nous, ils payent directement sur la machine et ensuite, c'est livré dans un sas à l'extérieur, sur le côté.
La difficulté, c'est qu'on est tous au même endroit au même moment ou est-ce qu'on peut alors, procéder de manière différente?
Il y a deux manières.
S'il y a 10 personnes qui veulent acheter un paquet de biscuits en même temps, il va falloir qu'elles fassent la queue?
Oui, mais on a deux solutions un peu différentes. C'est soit vous avez la possibilité d'acheter directement donc sur le magasin en direct, soit vous avez la possibilité de le faire via une application qu'on a lancée donc qui vous permet de faire vos courses comme un drive classique. Vous commandez sur votre application, vous payez en ligne et ensuite vous venez retirer vos produits. Donc là, en fait, en termes de temps de récupération de produits, on est vraiment sur quelques minutes très simples.
Que dit notre coach?
Alors justement, c'était la question que j'avais, c'est qu'à l'ère du... l'anglicisme qui va bien, on appelle ça le click and collect, oui. En fait, ou à l'inverse, le ship from store, c'est-à-dire finalement, je vais voir un truc dans un magasin, puis on me le livrera. C'est pas un peu à contre-courant, finalement, votre offre? C'est-à-dire, qui encore aujourd'hui a envie d'aller passer du temps dans un magasin?
Alors, nous, c'est plutôt... Nous, on est vraiment dans un concept où on apporte une solution, en fait, à toute heure, en fait. Donc, nous, nos magasins sont ouverts 24 heures sur 24,
c'est ça,
7 jours sur 7.
24/7,
donc, ouais. On apporte une solution à une clientèle, maintenant, qui veut tout de suite. C'est-à-dire, on se rend bien compte que les gens vivent, sortent le soir... Il y a une clientèle également qui vit la nuit et donc on apporte une solution à cette clientèle-là. Donc je ne pense pas du tout qu'on soit un peu, on va dire entre guillemets, has-been par rapport au fait de ce que s'y faisait avant. Mais en tout cas, on a vraiment voulu apporter une solution à des gens qui veulent tout de suite maintenant.
Alors justement, Elisabeth, il va ressembler à quoi le magasin de demain? Est-ce qu'on est sur les bons rails?
D'abord, il en faut un magasin de demain parce que quand on va se promener, c'est l'occasion de faire du repérage pour 30% d'entre nous ou tout simplement de se promener sans rien acheter. Donc, le magasin, il faut qu'il change. Il faut qu'il soit envisagé d'abord comme un lieu de vie, d'inspiration, d'expérimentation où le client va pouvoir flâner, se divertir, puis acheter et non pas en première intention l'achat. Et c'est encore un inconvénient pour les magasins. Il faut qu'ils se renouvellent parce que ces questions qui portent sur la présence des espaces de détente, des petits cafés, des services à la personne sont encore bien faibles. Donc les clients ne vont pas se rendre seulement en magasin pour voir les produits exposés. Ils vont vouloir vivre une expérience. C'est pour ça qu'il faut les magasins physiques, les magasins en ligne, les magasins ouverts 24 heures sur 24 comme vous, pour qu'on ait une approche totalement unifiée du commerce.
Aujourd'hui, combien de Ximity installés et quelle est la marge de développement?
Donc actuellement, on a 10 points de vente installés partout en France. Donc les deux derniers ouverts à Nîmes et à La Rochelle. D'ici la fin de l'année, on devrait être à 12 magasins et d'ici fin 2020, on espère avoir une petite trentaine de magasins partout en France.
On reste ensemble et on continue à regarder à quoi va ressembler notre magasin demain.
À quoi vont ressembler les magasins de demain? On en parle sur Europe 1, la suite de La France Bouge. Raphaël Duchemin.
On a tous pris l'habitude de se faire livrer à domicile des repas ou les courses, mais demain, ce sera peut-être un robot qui se substituera à nos livreurs en chair et en os. Bonjour Vincent Talon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Twins Hill. Twins parce que c'est avec votre jumeau, c'est bien ça?
Oui.
Et Hill parce que c'est votre nom en anglais. Ça répond à la question que Laurent avait en tête concernant le nom.
Exact.
Comment vous est venue justement à vous l'idée de mettre un robot à la place du livreur?
Alors, on a commencé à développer des robots pour des besoins d'usines et d'entrepôts. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi en ville, et notamment les personnes à mobilité réduite, que ce soit les personnes âgées ou les personnes handicapées, en fauteuil roulant par exemple, qui avaient du mal à faire leurs courses. Donc on s'est dit, pourquoi on ne mettrait pas ces robots au service de ces gens-là, de ces populations-là, qui sont un petit peu coupées du reste du monde sur des tâches ultra simples que n'importe quel valide peut faire très simplement, aller faire ses courses au petit magasin d'à côté, tout le monde le fait. Mais ces personnes-là, malheureusement, c'est énorme comme contrainte à faire. Donc, proposons-leur un robot qui va porter leurs courses à leur place de façon à ce qu'elles regagnent en liberté. C'est vraiment donner de la liberté aux gens.
Donc l'idée, c'est 2014-2015 et très vite, vous sortez un premier robot 2015-2016.
Oui, exact. Les premiers robots sont sortis en 2015. 2016, on les a présentés à La Poste qui nous a emmenés avec eux au CES Las Vegas en janvier 2017. Donc la première fois qu'il a été vraiment présenté au public, c'était au CES à Las Vegas en janvier 2017.
Alors ce robot, il peut porter une quarantaine de kilos, c'est ça?
En réalité, on va avoir trois types de robots. Les robots légers qui vont porter à peu près 40 kilos, les robots médiums 300 kilos et les robots lourds 600 kilos.
Et il fait une image en trois dimensions de la personne et ensuite il peut la suivre, il peut...
Exact. Alors les robots ont deux principaux modes de déplacement. Le premier, c'est ce qu'on appelle follow me, c'est-à-dire que vous cliquez sur un bouton sur le robot, vous le faites un signe de la main, on fait un scan 3D de vous et ensuite on traque la personne et le robot vous suit comme un petit chien à 2 mètres derrière vous et porte les charges lourdes. Ou alors, le robot peut se déplacer en 100% autonome, c'est-à-dire qu'on vient créer une cartographie du lieu dans lequel il va se déplacer, le quartier, on définit des routes virtuelles et le robot va se déplacer sur ces routes virtuelles pour aller de A à B en portant les charges lourdes à la place de l'humain, ce qui permet à l'humain de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Il monte les trottoirs, il peut monter les escaliers?
Alors, il peut monter les trottoirs jusqu'à 18 cm. Par contre, on ne lui fait pas monter d'escalier pour une raison très simple. L'escalier, c'est un truc typiquement d'humain. Vous avez des robots, alors il faut regarder nos collègues de Boston Dynamics avec les robots chiens que vous voyez de temps en temps. Par contre, on n'est plus du tout dans le même ordre de prix. Il y a toujours la contrainte aussi de développer des innovations qui soient abordables pour le commun des mortels. On ne va pas développer uniquement des robots pour les milliardaires.
Donc pour la livraison en ville, c'est quelque chose d'envisageable? C'est quelque chose qui est déjà en cours?
Oui, alors pour de l'assistance à la personne, c'est des expérimentations que l'on fait dans Paris avec Franprix et Urban Lab. Et de la livraison en ville, on est plutôt centré sur du B2B, c'est-à-dire rapprovisionner les magasins du centre-ville depuis des hubs de logistique de façon à éviter à ce que les camionnettes rentrent dans le centre-ville, donc on réduit la pollution, l'encombrement. Et dans ce cas-là, les robots se déplacent sur des routes virtuelles dans le centre-ville avec des expérimentations qui viennent de commencer, notamment à Montpellier, dans le cadre des grands fameux expérimentations du véhicule autonome piloté par le gouvernement.
Combien est-ce que vous avez de robots déployés aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a une vingtaine de robots qui sont en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique et en démonstration en Corée et Japon.
Laurent?
Il y a quelque chose d'important à préciser parce que quand on l'entend comme ça, on a l'impression que c'est un produit B2C, c'est-à-dire que, en fait, vous travaillez avec des entreprises en réalité et ensuite vous le mettez au service des gens. Mais vos clients, ce sont des organisations, ce ne sont pas les individus.
Exactement. Nous, on ne vend que en B2B. Donc, on fait nos robots, on les conçoit, on les développe et on les fabrique 100% en France. On source toutes les pièces en France ou en Europe. Et ensuite, on vend ces robots à des entreprises qui sont expertes de la logistique du dernier kilomètre. Nous, on est des ingénieurs. On est le constructeur de robots. On n'est pas l'exploitant du robot.
Elisabeth, puisqu'on parle de robots et qu'on parle de livraison, c'est vrai que ça fait partie des choses qui vont véritablement être importantes dans les années qui viennent.
C'est très très important parce que ce magasin de demain, il ne peut pas vivre, il ne peut pas prospérer que s'il procure un éventail de services de qualité. Dans ces services, il y a évidemment la livraison, une livraison efficace qui doit être le plus souple possible. Pour s'adapter aux clients, il faut qu'il y ait une livraison standard, express, à domicile, dehors. Et il y a encore trop peu de marques à proposer, notamment les petites enseignes, les petites boutiques même carrément de quartier. Elles doivent s'adapter parce que c'est quelque chose qui devrait être proposé systématiquement pour s'aligner avec tous les concurrents.
Alors justement, Vincent Talon, vous parliez des grands groupes. Aujourd'hui, est-ce que les plus petites enseignes s'intéressent à ce type de produit aussi?
Alors de base, nos robots sont des robots partagés. C'est forcé. Comme je disais, il est vendu en B2B et on le vend. Personne de particulier ne peut l'avoir. Donc c'est un pool de robots, de droïdes, qui sont mis à disposition des gens qui en ont besoin. Donc dans un centre-ville, on va faire une alliance avec l'agglomération, avec un loueur de parking dans lequel on va stocker nos robots et ensuite les gens pourront venir louer ou se faire prêter les robots par les enseignes en fait. C'est un véhicule partagé.
Mais les petites enseignes peuvent aussi, ou les magasins, les petits commerces peuvent aussi faire appel à vous.
Oui, elles pourront profiter du robot partagé. En fait, on n'a pas dans notre vision des choses, on ne va pas vendre le robot à une petite enseigne. On veut éviter l'effet trottinette, on va mettre des millions de robots. Les robots doivent être réservés surtout, en tout cas les robots suiveurs, aux personnes à mobilité réduite. Et ces robots devront être partagés entre plusieurs magasins.
Par exemple, plusieurs magasins d'une même rue, des petites enseignes de quartier qui pourraient se regrouper et faire appel à vos services.
Exactement. Donc là, dans les expérimentations, on travaille avec les chambres des métiers d'artisanat, avec les CCI, avec les associations de commerçants pour créer ce partage.
Donc les livreurs ne sont pas vos copains ?
Alors, nous, le livreur... Alors, non, les exploitants de livreurs ne sont pas nos copains. Les livreurs, nous, on les garde à la fin, au début. Je vous parlais tout à l'heure de la livraison en autonome. En fait, le robot ne fait que aller de A à B en évitant que le chauffeur-livreur reste coincé dans les bouchons. Par contre, charger le robot et décharger le robot, c'est un humain. Pour nous, le contact humain est ultra important. La valeur ajoutée de la livraison, c'est le contact humain entre le produit et la personne chez qui on livre. Typiquement, on va livrer avec Franprix, on va livrer des repas chez une personne âgée. Dans ce cas-là, peut-être que ce livreur, il faut qu'il a discuté avec la dame pour savoir comment elle va, prendre de ses nouvelles, peut-être prévenir sa famille, et pourquoi pas changer une ampoule qui va facturer, ce qui va faire du service, qui apporte de la valeur ajoutée au service de livraison.
Oui, typiquement, quand on est en bas de l'escalier, la livraison arrive, mais c'est le livreur qui va venir la prendre dans les bras du robot pour la monter à l'étage.
Exactement. Et le livreur reste dans un quartier donné et il ne fait pas des allers-retours avec le hub de logistique ou le magasin de proximité qui peut être à 1 km de là.
On reste ensemble et on continue à regarder ce que vous nous proposez pour construire ce magasin de demain. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Il est 13h40, la suite de La France bouge sur Europe 1. Vous savez que depuis 13h, on s'intéresse aux innovations françaises qui feront les magasins de demain avec Raphaël Duchemin et ses invités.
Avec Romain Schott, cofondateur et président de l'entreprise Limpidus, qui a développé une plateforme pour dématérialiser les tickets de caisse. Damien Tabuto, directeur adjoint de Neovendis, qui commercialise les magasins Ximity. Distributeur Triple XL qui propose plusieurs centaines de références. Et puis Vincent Talon, cofondateur de Soben, qui a développé Twins Hill, un robot livreur de course. Tiens, question pour vous justement, Vincent. Il coûte combien notre robot livreur ?
Alors aujourd'hui, on reste sur des pré-séries. Donc c'est extrêmement cher. On est entre 20 000 euros pour les petits et on peut monter jusqu'à 100 000 euros pour les très gros. On a une target d'être à moins de 10 000 euros sur des robots pour seconder les personnes handicapées, les personnes âgées.
Très bien. Moi, j'ai une question aussi pour vous, Romain. Je voulais savoir comment on mesure l'empreinte écologique. Parce que vous nous dites que c'est une solution qui est plus écologique. Véritablement ?
Oui, alors...
On dématérialise, mais quand même.
L'écologie sur le sujet, elle a deux aspects. Il y a l'aspect bilan carbone, sur lequel, au fond, on ne sait pas trop. On est en train de faire l'étude en ce moment avec quelques clients, donc je pourrais vous dire un peu plus tard ce qu'il en est. On a le sentiment que le bilan est positif, mais on veut avoir des données fiables. Et il y a aussi l'aspect perturbateur endocrinien. Il faut savoir que le papier qu'on utilise pour imprimer les tickets de caisse, c'est du papier thermique qui est imbibé de perturbateurs endocriniens. Et celui-là, il faut l'éradiquer.
Laurent ?
Moi, en fait, je me suis dit, Damien et Vincent, vous avez à vous parler, non ?
C'est ce qu'on fait beaucoup depuis tout à l'heure, effectivement, parce que c'est quelque chose... parle pour moi en
c'est
tant que magasin,
ça
peut être, voilà. Ça peut être quelque chose de complémentaire dans les années à venir, effectivement, mm-hmm. puisque nous, on ne fait pas de livraison, les gens achètent encore, et pourtant, on a développé une plateforme sur smartphone. Hein. Donc, l'idée après, effectivement, que les gens puissent se faire livrer nos produits directement chez eux via des robots, c'est tout à fait quelque chose qui paraît être faisable.
Je rejoins complètement la vision, en fait. Et chez Twins Wheel, en fait, ce qu'on est en train de développer, c'est plus la personne qui se déplace dans le centre commercial qui est en périphérie de la ville avec sa voiture, mais c'est le centre commercial qui vient chez le particulier. En gros, c'est le magasin mobile qui vient chez le particulier pour faire vos courses, vos achats de chaussures, de vêtements, pour pouvoir faire de l'essai. C'est le coût d'après de l'e-commerce, en fait.
C'est la proximité qu'on retrouve dans...
Dans Ximity. Proximity, voilà, c'est ce qu'on cherche.
Alors justement, question peut-être pour tous les deux d'ailleurs. N'y a-t-il pas un risque que les courses soient volées ? Quel système a été mis en place pour garantir la sécurité de la livraison ? C'est une question au 3921 d'Hervé de Marseille.
Alors, sur les robots, c'est super simple. Hein. Ce sont des petits véhicules autonomes. Donc, je rassure tout de suite, toutes les datas restent à l'intérieur, sauf s'il y a justement un vol. Et nos robots sont équipés de caméras en voie 360 degrés, de LIDAR, de capteurs ultrason, d'un GPS, d'une connexion 4G-5G. Donc instantanément, dès que le robot est agressé, on le sait, on remonte l'information et on dit à la police, voilà, le robot est placé là, cette personne-là est en train de l'embêter, avec la photo de la personne Et si la personne continue à nous embêter, on envoie même le profil Facebook s'il faut.
Même chose pour Ximity, je ne peux retirer les courses qu'en tapant un code ou en ayant un contact physique avec une personne qui va me donner le...
Alors nous, en fait, pas du tout. Nous, vous ne rentrez pas dans le magasin. À aucun moment, tout se fait par, sur la rue, en fait, hein, par l'extérieur. C'est-à-dire que les gens commandent via une borne tactile sur la rue. Le robot prépare en fait la commande, puis ensuite l'envoie dans un sas sécurisé sur le côté. Donc à aucun moment, les clients n'ont accès à l'intérieur du magasin.
Comment vous faites, en particulier vous deux, parce que je comprends l'intérêt pour Romain, mais sur la question que posait Elisabeth tout à l'heure, aujourd'hui, de plus en plus, l'expérience d'achat, tant qu'à se déplacer de chez soi, ça va être une expérience. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Là, c'est moins net. On ne voit pas bien la nature de l'expérience qu'on peut avoir.
Ben, nous, si vous voulez, c'est le but, c'est que maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les gens veulent tout de suite. C'est-à-dire, à partir du moment où ils veulent un produit, c'est pas... Ils ne veulent plus attendre. Dans les années 80, on pouvait attendre le lendemain matin ou le lundi quand c'était le samedi. Maintenant, ce qu'ils le veulent, c'est de tout de suite. Donc effectivement, à 23h, ils vont se déplacer, ils vont le prendre. Un cap d'iPhone, l'exemple bête, hein. Maintenant, les jeunes, ils savent maintenant, ce n'est pas demain matin.
Alors, je voudrais qu'on accueille Aurélien, qui a composé le 39-21 et qui est à Amiens. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé une start-up de containers connectés. Vous dites aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est précisément un moyen de redynamiser des zones à l'abandon, les campagnes notamment.
Exactement, exactement. C'est aujourd'hui, nous, on a créé une start-up qui s'appelle Believe.ai. Je me suis garé, hein, désolé.
Oui.
Et en fait, nous, le message que je voulais passer, c'est de dire, avec l'automatisation, on va pouvoir remettre des magasins là où il y en a plus. Aujourd'hui, pour faire tourner un conteneur, il faut une heure par jour de manutention. Et donc, dans des petites campagnes ou plus proches des aînés, c'est plus simple, au final, de remettre quelque chose où on peut acheter des baguettes, on peut acheter le journal, on peut acheter ce qu'on appelle le convenience store. Et ça rapporte quand même. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un à l'intérieur toute la journée, d'avoir des heures d'ouverture et tout ça. Donc, l'automatisation, c'est aussi une réponse à la densité urbaine et puis à l'abandon des campagnes. Voilà.
Alors, on va voir si votre avis est partagé. Merci pour votre appel, hein, Aurélien, par Damien. Je vous voyais réagir, Damien.
Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il faut bien différencier deux choses. C'est-à-dire qu'il parlait tout à l'heure de distributeur de baguettes. Effectivement, dans les campagnes, ça peut être un point
c'est
utile.
C'est un modèle voilà. qui est utile, oui.
Nous, dans notre concept à nous, il nous faut quand même, pour que le concept soit viable et puis que finalement, parce que c'est un concept pour les entrepreneurs, hein, nous, les gens qui ouvrent les magasins, ce sont des licences. C'est-à-dire que comme des franchisés. Donc il faut quand même que c'est un but lucratif, qu'ils gagnent de l'argent avec ça. Dans les campagnes, il faut qu'ils aient un minimum de clients avec un panier moyen assez suffisant pour que le concept soit viable. On n'est pas sûr et on n'est pas là, nous en tout cas, on pense qu'on n'est pas là pour remplacer les supérettes qui ont disparu si justement il n'y avait pas cette clientèle-là ou dans des zones dortoirs.
Question, est-ce que demain j'aurai encore un ticket en 2025 dans mon supermarché? Est-ce que j'aurai d'ailleurs un supermarché où je pousserai un caddie? Est-ce que j'aurai un livreur qui viendra taper à ma porte? Ou est-ce que tout ça aura véritablement changé?
Déjà sur le e-ticket, moi, je peux vous garantir que d'ici 2025, l'essentiel de la grande distribution sera passé au e-ticket. Là, on est dans une lame de fond qui est en train de voir le jour.
Damien?
Nous, de toute façon, l'avenir maintenant, c'est le concept du magasin à toute heure.
Vincent?
Et côté robots, c'est des questions d'autorisation. En France, on vise fin 2021-2022 pour une utilisation commerciale hors expérimentation.
Et puisqu'on est dans le magasin de demain, Elisabeth, je voudrais qu'on termine par les Galeries Lafayette qui sont sur les Champs-Élysées et qui veulent justement l'incarner, ce magasin de demain.
Ils ont inauguré les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées il y a quelques mois, il y a bientôt une année. 6 500 m², 4 niveaux. Et eux, ils sont partis du principe que le passant, quand il rentre dans ce magasin, il est ultra informé, il est ultra connecté. Donc, il faut se mettre à sa hauteur. Donc, des achats optimisés avec 300 stylistes qui remplacent, hein, ils le disent, ils l'assument, qui remplacent les vendeurs, qui ont été formés à la Retail Academy. C'est un programme qui a été conçu avec l'Institut français de la mode, avec des experts de l'Union nationale des concierges d'hôtels pour offrir un accompagnement digne d'un palace. Ils sont équipés d'un assistant virtuel qui leur permet de communiquer avec le client par email, par WhatsApp, par SMS. Et ça sert également au terminal de paiement pour éviter le passage en caisse.
Merci Elisabeth. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur ce magasin de demain. En attendant évidemment d'y être. Merci messieurs d'être venus nous en parler sur Europe 1. Restez avec nous dans quelques minutes. On va remonter le temps pour vous raconter l'histoire de la biscuiterie de Provence. C'est l'entreprise qui va bien sur Europe 1.
13h52, la suite et fin de La France Bouge. C'est l'heure maintenant de mettre en lumière une entreprise qui va bien, Raphaël Duchemin.
Et cette entreprise, eh bien, c'est la Biscuiterie de Provence. Bonjour Franck Bédouin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de cette maison qui a commencé son histoire du côté de Visan. On est en 1833 et à l'époque, c'est d'abord et avant tout une casserie d'amandes.
Exactement. À l'époque, il y avait beaucoup d'amandiers dans notre région, en Provence en particulier. Et il y avait plusieurs casseries, c'est-à-dire que les particuliers, les agriculteurs, récoltaient les amandes. En général, ça se fait au mois d'août. Et les amenaient donc dans des casseries où la fonction, c'était de retirer la coque de l'amande pour en récupérer le fruit.
Pour pouvoir en faire du nougat, des calissons notamment.
Exactement. Donc la consommation était très locale et particulièrement autour de plusieurs spécialités, dont ces deux spécialités qui sont dont l'ingrédient principal est l'amande.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? 1833, on est dans la casserie à Visan, arrive la guerre. Et après la Première Guerre mondiale, finalement, l'entreprise va commencer sa transformation ?
Oui, tout à fait. L'amandier est un arbre qui fleurit. C'est le premier arbre qui fleurit. Hein. Il fleurit au mois de février. D'ailleurs, vous le voyez, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, mais vous voyez au bord des champs, des amandiers en fleurs. Et donc, qui veut dire un arbre qui fleurit en février, derrière, s'il y a des gels, vous n'avez plus de fruits, vous n'avez plus d'amandes à la récolte. Donc, ce qui s'est passé, au moment des guerres, donc, il y avait des choix à faire, il y avait besoin de bois, etc. Donc, les agriculteurs ont décidé, pour la plupart, d'arracher ces amandiers et de planter, entre autres, chez nous. On a énormément de vignes, on a de l'olive, on a des fruits, des légumes, des arbres fruitiers, etc. Et donc, c'est une culture qui a pratiquement disparu, malheureusement, de notre région.
Et c'est comme ça que votre père et votre oncle ont commencé à diversifier finalement la fabrication, se sont mis justement à faire des produits à base d'olives, les fameuses olives de Nyons notamment, les petits croquants.
Exactement. Donc ces amandes qui avaient disparu en France, on s'est mis à en importer. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit mais pourquoi importer ces produits alors qu'il y a plein de choses
avec ce qu'on a autour de nous.
Exactement. Et puis en plus, c'était des produits qui étaient aussi très sensibles au cours des marchés mondiaux. Et on s'est dit, il y a plein de choses merveilleuses autour de nous. Vous avez cité l'olive de Nyons, hein, on est situé à 10 km. On a du fromage de chèvre, on a des herbes de Provence, on a de la lavande, on a énormément de choses. Donc on s'est mis à fabriquer des produits à base de ces ingrédients.
Donc vous êtes passé du biscuit sucré au biscuit salé.
Exactement. Aujourd'hui, on produit les deux, mais entre autres, on a créé un produit qui s'appelle le croquet de Provence, où on a pris un biscuit traditionnel aux amandes, hein, qui est le croquant aux amandes qu'on retrouve dans tout le bassin méditerranéen. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a introduit en plus à l'intérieur des saveurs salées. Je vous parlais d'olive de Nyons, je vais vous parler de picodon, qui est le fromage de notre région. Voilà, un fromage de chèvre très puissant, hein, donc on retrouve entre autres dans nos biscuits. Et donc, on a créé une gamme apéritive avec ces saveurs-là.
Biscuits que vous pouvez voir sur europe1.fr, hein, puisque vous nous en avez amené quelques exemplaires. Question de notre coach ?
Ou une remarque en l'occurrence, parce que en fait, quand on dit biscuit, on pense forcément hors repas. Or, je crois qu'un de vos positionnements originaux, c'est de dire finalement, on fait tout de l'apéritif au fromage et que vous avez une capacité à accompagner tout un repas. Vous pouvez nous en dire un petit mot de ça ?
Exactement. Donc, les biscuits, on parlait de biscuits apéritifs à consommer avec l'apéritif. Je ne sais pas si on a le droit de parler de certains liquides, voilà, certains apéritifs, mais en tout cas, ça les accompagne très bien. On peut les mettre aussi comme ingrédients dans des salades, par exemple. Hein, on peut les tartiner. Hein, on parle beaucoup d'apéritifs dînatoires, de choses comme ça. Et on peut aussi les mettre dans... On en fait en sucré, bien sûr. On peut consommer avec un thé, un café, un dessert, mais on peut les mettre dans des recettes. Hein, aussi bien d'une manière complète ou en les broyant, par exemple, etc. Ça devient un ingrédient.
Vous avez aujourd'hui 70 recettes dans votre gamme.
Oui, exactement. On a 70 recettes de biscuits et gâteaux dans notre gamme, dont une grande partie en bio aujourd'hui.
Voilà. Une grande partie en bio, c'est un engagement important pour vous ?
C'est un engagement primordial. Dès qu'on a démarré la biscuiterie, l'engagement qu'on a pris, c'est du 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Pas de conservateurs, pas d'additifs chimiques, pas d'huile de palme, par exemple. On n'a jamais fabriqué un biscuit à base d'huile de palme, alors que des gens nous disaient que ce n'est pas possible. Donc, le bio est arrivé il y a une dizaine d'années, en sachant qu'on était aux portes du bio avec nos ingrédients naturels. Et aujourd'hui, le bio représente 40% de nos fabrications.
On était à Visan tout à l'heure, au point de départ de l'aventure. Vous avez bougé un petit peu, pas très loin ?
Non, on a bougé 10 km. Hein. On est aujourd'hui dans un petit village qui s'appelle Saint-Maurice-sur-Aigue, hein, où on a construit notre fabrique.
On est dans la campagne, hein. On est quelque part à une heure d'Avignon, c'est ça ?
On est à une heure d'Avignon, on est à une demi-heure du sommet du Mont Ventoux. Donc une très belle région, on est au milieu des oliviers, des vignes, des Côtes-du-Rhône et on a énormément de lavande et de champs de truffes autour de chez nous.
Je disais tout à l'heure, c'est une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui rachète aussi, qui vient de racheter le Petit Duc à Saint-Rémy-de-Provence pour agrandir la gamme, si j'ose dire, faire de la confiserie, des chocolats.
Exactement, donc on a eu l'opportunité de racheter cette belle marque qui est basée à Saint-Rémy-de-Provence et donc qui fait de la biscuiterie fine, mais aussi, vous disiez, du chocolat, du calisson, avec en particulier un produit qui est un calisson très puissant en amande. Donc on retrouve un peu notre identité familiale. Et un calisson qui a une forme carrée et qui est extrêmement gourmand.
Oui, qu'on voit dans la boîte verte qui est avec nous ici sur Europe1.fr. Vous vendez principalement en France. Comment ça se fait? C'est 85% de votre chiffre d'affaires?
Oui, alors on est une entreprise d'une taille relativement modeste déjà.
Oui, 27 salariés, c'est ça?
27 salariés, tout à fait. On fabrique tous nos produits aussi. Et en France, on a la chance d'avoir non seulement des magasins type épicerie fine, magasins produits de terroir, mais aussi une grande variété de magasins bio. Et donc voilà pourquoi on vend principalement en France, mais l'export fait partie de nos objectifs aujourd'hui.
Et vous avez lancé aussi des travaux pour mettre en place un parcours découverte pour les visiteurs avec un magasin, un espace de restauration. Ils pourront venir découvrir tout ça juste à côté d'Avignon. C'est donc la Biscuiterie de Provence, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1.